Bon, alors, comme je ne suis pas allée assez vite ce matin, je vais accélérer. Non, je vais ralentir peut-être un peu. Et puis, je poursuis par rapport à ce que j'ai dit ce matin. On en était resté à comparaisons successives. Donc, je vous rappelais l'importance pour nous d'enseigner, pas seulement de faire des comparaisons aux élèves, mais de leur apprendre les procédures efficaces de comparaison. Et donc, je vais proposer 4 dispositifs. Hein. Vous vous rappelez, bon, je les ai plus. Mais le premier de ces dispositifs, je l'intitule « Comparaisons successives ». Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, là, on est dans l'aspect très concret du développement de la comparaison. Et un exemple de tâche qu'il est possible de proposer aux élèves. Ici, on s'intéressait avec Paour de reprendre les tâches habituelles proposées à l'école. C'est-à-dire que j'ai montré tout de suite hein, toutes ces tâches d'ombre sur lesquelles on fait travailler les élèves. Et je disais que même s'ils réussissent, on ne sait pas bien pourquoi ils réussissent et comment ils sont faits pour réussir. Donc, on va garder cette tâche-là. Et on va garder la même consigne, trouver la bonne ombre. Mais cette fois-ci, on va pas seulement leur demander de le faire, mais on va leur apprendre à le faire et leur faire prendre conscience des procédures efficaces pour le faire. Voici, donc là, je vous donne un exemple d'activité. Voici le modèle. Et vous avez le modèle sous le nez, mais vous n'avez rien d'autre que le modèle. Et donc, vous n'avez pas d'autre échappatoire que de traiter ce modèle-là. Est-ce que ça va ? Donc, vous pouvez pas initier l'activité de comparaison, puisque vous rappelez ce que je disais ce matin, enlevons tout ça de sous les yeux des élèves. Donc, la seule solution qu'ils ont là, c'est de traiter le modèle avec le guidage de l'enseignant. Et le guidage de l'enseignant va consister, rappelez-vous ce que je disais aussi, sur l'abstraction de propriété, l'abstraction de relation, va consister à nommer l'objet et en même temps à leur faire décrire de manière exhaustive, analytique, le modèle pour qu'ils puissent ensuite opérer la compréhension sur l'ensemble des propriétés du modèle. Autrement dit, s'il stocke seulement en mémoire, c'est un avion, on va voir par la suite que cette prise d'information est insuffisante, donc on va les inciter à prendre l'information en profondeur sur le modèle. Et on décrit, et qu'est-ce qu'on voit ? Il a le bout du nez rouge, enfin le bout du cockpit rouge, à l'arrière, avec 3 ailes et des petites ailes et 2 ailes et un moteur. On voit un moteur ici, on en voit apparaître un autre ici, c'est important de le voir. Il y a un cockpit, il y a des hublots, combien il y en a. Bref, ça va ? Donc, comparaison exhaustive du modèle. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-il ? Qu'est-ce qui va nous aider à trouver son ombre ? Et donc là, on les installe dans le problème en trouvant une manière de planifier l'activité, c'est quelles sont les caractéristiques distinctives, les propriétés distinctives qui vont nous permettre de trouver son ombre. Et là, on fait une description, les ailes, le moteur, le cockpit, l'avant de l'avion, etc. Et voici l'autre. Et donc, maintenant qu'on a bien stocké l'avion en mémoire, on va pouvoir comparer l'autre en disant, c'est le même objet, c'est un avion, mais il n'est pas tout à fait pareil. Et on va prendre les caractéristiques distinctives qui permettent de dire, il est un peu pareil, mais il n'est pas tout à fait pareil. Il est un peu pareil parce qu'on voit un moteur, parce qu'on voit un avant rond, mais il n'est pas tout à fait pareil parce qu'ici, il y a des petits trous, etc., etc. Est-ce que ça va ? Et donc, on va reprendre chacune des propriétés extraites du modèle pour l'appliquer à la comparaison. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'ombre du modèle ? Comment est-ce que vous le savez ? En êtes-vous sûr ? Pourtant, c'est l'ombre d'un avion. Est-ce facile ou difficile ? Et ça, c'est une activité qu'on va mener beaucoup. C'est que on n'a pas besoin d'appliquer le même effort en fonction des cibles. C'est-à-dire que certaines cibles vont être facilement éliminables quand d'autres vont mériter une attention toute particulière. Et ça, c'est très important pour les élèves de savoir distinguer l'effort à fournir en fonction des propriétés des activités scolaires. Et on n'est pas également attentif, également en activité intellectuelle en fonction des situations, en fonction des tâches. Donc on n'a pas besoin d'appliquer le même type de contrôle selon la nature de la tâche, selon la nature des objets qu'on a à comparer. Et on va travailler ça très tôt avec les élèves pour leur apprendre à répartir leur attention en fonction des difficultés des tâches, pas de manière équivalente. C'est-à-dire qu'on va pas leur dire « faites attention, réfléchissez dans votre tête, talala », c'est à quoi faut-il être attentif, qu'est-ce qu'il faut bien regarder, quelles procédures il faut bien appliquer ici et maintenant en situation. Deuxième étape, qu'est-ce que c'est ? Donc vous avez, et on recommence. Est-ce que c'est l'ombre du modèle ? Comment le savez-vous ? En êtes-vous sûr ? Pourtant, c'est l'ombre d'un avion. Est-ce que c'est facile ou difficile ? Et ici, si on compare celle-ci et celle-là, c'est bien plus facile ici, compte tenu de la forme des ailes, ça saute aux yeux. Ici, vous en convenez, ça ne saute pas aux yeux. Quand ici, ça saute aux yeux. Donc c'est ça qu'on va leur apprendre à distinguer. Donc là, ça saute plus aux yeux. Donc c'est plus facile pour trouver que ce n'est pas l'ombre du modèle. Et si on compare les deux cibles, on va faire une hiérarchie entre ceux qui sont le plus proche du modèle, celui qui est le plus proche du modèle, celui qui est le plus loin. Donc celui qui mérite qu'on y regarde à deux fois et celui qui mérite, ne mérite pas qu'on y regarde à deux fois. Avec laquelle des deux ombres est-il plus facile de trouver que ce n'est pas l'ombre du modèle? Pourquoi? Et donc là, on revient sur l'ensemble des propriétés. Si on reprend l'avant de l'avion, c'est pas du tout pareil, il y a une hélice. Si on reprend le dessous de l'avion, c'est pas du tout pareil, il y a deux roues. Si on reprend les ailes, ça n'est pas du tout pareil. Ça va? Vous comprenez l'idée? Alors je passe. Et là, c'est pas un avion. Donc ça saute aux yeux. Donc voilà comment on va raisonner avec les élèves. C'est très facile de trouver. C'est facile, mais c'est moins facile. Ça saute moins aux yeux. Donc vous voyez comment on va travailler avec eux, à la fois la comparaison, la perception, et comment il importe de canaliser son attention sur des aspects plus ou moins importants. Je passe. Hein. Est-ce que c'est l'ombre du modèle? Comment le savez-vous? En êtes-vous sûr? Difficile ou pas? Ça va? C'est la bonne. Hein. Et là, on va imaginer une autre tâche qui oblige à comparer très attentivement, montrer sur l'ombre du modèle où se trouvent les parties que montrent les flèches. Vous êtes d'accord qu'on est obligé d'avoir une analyse très précise du modèle? Pas pour ça. Pas pour ça, mais là, il faut vraiment se casser la tête. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'ombre du modèle? Et on compare. Donc là, vous voyez qu'on a changé l'orientation, et qu'une fois qu'on change l'orientation, là, ça redevient un véritable problème, ça redevient difficile, parce qu'il faut faire une rotation mentale. Et donc, on est toujours dans la comparaison, mais sur une opération plus compliquée, puisqu'il y a rotation mentale. Rebelote, avec laquelle des deux ombres est-il plus facile de trouver que c'est l'ombre? Il y a une erreur. C'est pas que c'est l'ombre hein, du modèle, il faut enlever le pas. Et maintenant, on range. Autrement dit, on va faire une activité méta sur l'activité de comparaison elle-même. Maintenant qu'on a vu tout ça, on est capable d'établir une hiérarchie entre les cibles et, quand on compare, se dire que certaines cibles sont plus faciles que d'autres, certaines cibles méritent plus d'attention que d'autres et on va classer les cibles en fonction de leur ressemblance et distance avec le modèle. Et donc là, on va leur faire classer les cibles en fonction de leur distance par rapport au modèle. Et paradoxalement, les élèves vont placer cette cible-là après cette cible-là, alors que c'est un avion, mais c'est plus facile de voir que ça, c'est différent de ça, que ça, de ça. Donc, ils ont beau ne pas s'appeler pareil, eh bien, dans la perception, celle-ci est plus différente que celle-là. Et d'ailleurs, quand on montre deux choses aux élèves en leur disant pourquoi c'est pareil et pourquoi c'est pas pareil, ils disent toujours d'abord c'est pas pareil parce que. Mais la ressemblance, elle est beaucoup plus difficile à trouver pour eux. Sauf si c'est strictement identique. S'il y a des choses très très différentes et du strictement identique, là, il n'y a pas de problème. Alors, je poursuivrai après sur cet exemple. Mais là, j'ai parlé de comparaisons successives. Hein, vous êtes d'accord? Maintenant, je vais passer à l'autre activité qui nous paraît première requise pour l'activité de comparaison systématique telle qu'on la demande à l'école, c'est cette capacité à suivre de manière ordonnée un alignement. On l'a vu ce matin à propos de la tâche carré rond triangle, comment la plupart des élèves procèdent par essai erreur, ne mobilisent pas une stratégie systématique organisée, ce que Bargolinas par exemple appelle une stratégie d'énumération, qui est critique à la fois en lecture et en mathématiques, puisqu'à l'école, on passe son temps à suivre des alignements qui peuvent être des lettres, qui peuvent être des chiffres, qui peuvent être des formes géométriques, etc. Or, cette activité à suivre un alignement, cette procédure-là, elle est très précoce chez les élèves, mais on va voir comment, pour certains au moins, elle n'est pas acquise de manière conceptuelle, elle n'est pas comprise, et donc peu utilisée dans les activités scolaires. J'ai oublié de dire ça, mais aussi bien la comparaison que l'ordre, c'est une procédure qui se met en place très tôt chez les enfants. Et qui, la comparaison, par exemple, ça se met en place dès la naissance, puisque dès la naissance, les bébés, sont capables de différencier la chemise de nuit de leur mère de la chemise de nuit d'une autre maman dès le deuxième ou troisième jour de vie. Le fait qu'ils soient capables de comparer et, je vais le montrer, capables de suivre, de construire des alignements, ne dit pas qu'ils ont compris comment ils font. Et donc tout le travail que je propose aujourd'hui, c'est toujours, je synthétise, l'idée de passer d'une réussite, de cette capacité à comparer, à la compréhension de ces réussites. Donc le point de départ de tous nos outils, c'est des activités qui sont maîtrisées par les élèves du point de vue de l'action. Ils savent réussir. Et tout notre travail va consister à les faire passer de cette réussite en acte à la compréhension de leur réussite. De la même manière, sur le suivi des alignements, là, je fais référence à Ordo, le manuel qui est sorti à la rentrée. Je vais en présenter un petit bout, mais je vais le présenter uniquement pour dire en quoi, selon nous, cet outil permet de développer cette procédure qui consiste à suivre un alignement de manière consciente et ordonnée. Donc, suivre un alignement, au fond, c'est ce qu'on demande aux élèves, très souvent, quand ils ont à écrire, quand ils ont à parcourir une suite d'objets, etc. Donc là, c'est cette capacité à suivre un ordre, sans changer de sens, d'aller soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, sans changer de sens de parcours, et sans en oublier, et sans passer deux fois sur le même. Donc finalement, c'est bien ça la comparaison. Si je reprends la tâche de rond, carré et triangle, c'est bien ça qu'on attend des élèves, c'est qu'ils partent de la première ligne et qu'ils balayent de manière organisée toute la page sans changer de sens de parcours, sans en sauter et sans passer deux fois sur le même. Je fais un petit dessin animé, alors je vous le remets. Pour pouvoir raconter à son tour. Oubliez le titre. J'ai récupéré une diapo d'ailleurs. Ce qui est important, c'est ce qui est ici. Cela dit, c'est pas faux. Pour pouvoir raconter à son tour, il faut apprendre à mémoriser l'ordre des événements dans le récit, donc s'appuyer sur ses connaissances de l'ordre. C'est pas faux, mais c'est pas le sujet. Ce qui nous importe, ici, c'est de faire comprendre aux élèves que quand on balaye un alignement, que ce soit des mots, que ce soit des chiffres, que ce soit des événements d'une histoire, il y a un départ, un début, un sens de parcours et une fin, et qu'entre ce départ et cette arrivée, eh bien, il y a après, 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 ou avant, avant, avant. De toute façon, il y a un sens de parcours, qui soit de haut en bas, de droite à gauche, et il y a un avant, il y a un après. En tout cas, il faut décider avant de commencer quel sens de parcours on va adopter. C'est pour ça qu'il importe de leur faire comprendre que c'est le sens de cette flèche, que la plupart des enseignants pensent totalement acquis par les élèves, ce qui est archi faux. Les élèves comprennent pas que ça indique à la fois le sens de parcours et le point de départ. Donc, dans Ordo, on va passer beaucoup de temps à leur faire apprendre la signification de la flèche. Cela dit, après avoir beaucoup réfléchi avec Paour, on s'est dit que oui, certes, c'était possible de balayer de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, mais que stratégiquement, on n'avait pas grand intérêt à leur apprendre tout ça, parce que à l'école, dans toutes les activités qu'on a recensées, c'est toujours de gauche à droite qu'il vaut mieux travailler. Bien sûr, alors vous allez le voir parce qu'on l'entraîne avec les élèves, mais moi je crois que tout balayer comme ça, c'est important de leur dire que oui, le sens de parcours peut changer en fonction du sens de la flèche, mais je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent sur de gauche à droite et de haut en bas. Alors, je disais, une conduite précoce et initialement fortuite, c'est-à-dire que les élèves, les bébés, les enfants rangent sans conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez le premier qui fait sortir voiture après voiture par ce petit espace, il fait bien qu'il les constitue ou qu'il les fait rentrer, peu importe. Et puis, il place une série d'animaux côte à côte. Mais pour l'instant, ces procédures sont totalement inconscientes. La preuve est là, on voit ici, attendez, oui, un alignement, non seulement un alignement, il est joli celui-là, hein, mais en plus il est catégorisé, c'est-à-dire qu'on a les animaux de la ferme, les animaux de la jungle, la savane, et l'enfant là a 39 mois. Ou un autre alignement ici, tous les M, ça va ? Bon, après ça plante un peu. Et vous voyez que, très précocement, les enfants fabriquent des ordres. Le fait qu'ils fabriquent des ordres, je le dis, ne signifie pas qu'ils sachent le suivre. Et je vous montre ça. On a demandé à cet enfant qui avait fabriqué cet alignement, donc avec cette vache, ce mouton et cet âne, on lui a demandé de le suivre en lui donnant la consigne suivante. Il faut que la poule fasse un bisou à tous les animaux, à chacun, incapable. Autrement dit, le fait de savoir construire un ordre ne signifie pas pour autant que l'enfant est capable de suivre l'ordre par la suite. Donc on voit bien que ce sont des réussites un peu fortuites qui sont contrôlées par la perception, mais qui ne signifient pas que l'enfant est capable de passer de l'un à l'autre sans en oublier dans le même sens. Alors, voilà l'idée qu'on a poursuivie dans Ordo, dans Phono, dans Catégo. On est sûr, ici, dans les étapes de conceptualisation, que les élèves maîtrisent les connaissances procédurales. C'est-à-dire que tous les élèves qui arrivent à l'école maternelle sont capables de fabriquer des ordres. Totalement. Maintenant, notre intention, c'est de dire, maintenant que vous savez les fabriquer, eh bien, on va vous apprendre à comprendre les procédures que vous utilisez. Et puis, on va s'assurer de leur maîtrise et on va les consolider. Donc, réussite première. Et une fois que on va, là, favoriser la conceptualisation. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans Ordo. Comment on enseigne en moyenne section le suivi ordonné d'alignement et la centration de l'attention des élèves sur la procédure. Ici, notre intention, ça a été de concevoir ces tâches. J'en ai parlé tout à l'heure. Deux pièges classiques à éviter, des tâches trop simples ou des tâches trop complexes. Donc, il faut réfléchir à ce qui est déjà acquis pour construire de nouvelles procédures. C'est ça qu'on a essayé de faire dans Ordo. Je passe ça pour l'instant. Voilà un exemple. Voici un exemple de la séance. Dans la première étape, et c'est celle-là qui me manque, on a imaginé un dispositif où les élèves vont aller d'un endroit à un autre en tapant systématiquement avec leurs doigts de l'un à l'autre sans en oublier. Mais il y a beaucoup moins d'objets. Et on a fait conceptualiser la flèche, point de départ, et le sens de la flèche, c'est-à-dire qui indique le parcours. Et pour revenir à la question que vous posez, ici on a un alignement en ligne gauche-droite, mais ici on va explorer l'ordre d'une manière différente, et ici on va l'explorer de haut en bas. Mais on a toujours un ordre, et on va l'explorer de haut en bas. Ce qu'on va leur demander ensuite, c'est de mettre leurs doigts sur le point de départ, et puis on va leur demander d'écouter la consigne de l'enseignant qui va dire après, et elle s'arrête, pardon. Et il faut dire où le doigt est-il posé. Et donc on va avoir un contrôle du après. Tout le monde, s'il a bien écouté la consigne de après, va avoir son doigt posé sur après. Ça va ? Et on va faire ensuite la même chose avec avant. Avant. Où est posé le doigt ? Alors évidemment, on part de là. Hein. Où est posé ton doigt quand je m'arrête ? Pour avoir un contrôle sur le fait qu'ils ont bien suivi l'ordre de parcours et ils n'ont pas sauté d'éléments. Ça va ? Après. Avant. Alors après, on leur demande de poser le doigt sur la maison, ici, pardon, et on leur dit quel est l'objet qui est posé avant, quel est l'objet qui est posé après. Et on va faire la même chose avec un sans le doigt. Si je te montre ça, quel est l'objet qui est placé après, quel est l'objet qui est placé avant. Donc là, il y a un entraînement très systématique du avant, du après, à l'aide de ce dispositif d'alignement d'objets. Donc, les stratégies qu'on leur enseigne, c'est faire attention au sens de la flèche qui permet de trouver le début et de trouver le sens de parcours, écouter la consigne, déplacer le doigt ou l'œil dans le sens de la flèche quand on entend après, déplacer le doigt dans l'autre sens quand on entend avant, laisser le doigt sur la case en attendant la consigne suivante. Voilà, c'est tout ça qu'on va leur enseigner et vous allez voir et dire sur quoi est posé le doigt. On va leur enseigner ça ici sur un matériel totalement décontextualisé et je vais montrer par la suite comment on enseigne le transfert dans des tâches scolaires. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas avec ce matériel totalement décontextualisé. On ne laisse pas à leur charge l'idée que « Ah oui, ce qu'on travaille là, ça va m'aider pour la conscience phonologique, ça va m'aider pour la lecture, ça va m'aider pour les maths. » On va travailler avec eux la transposition sur les activités scolaires. Alors, j'ai parlé comparaison successive. Deuxième étape, exploration systématique organisée, gauche-droite, ligne par ligne. Troisième étape, et je reviens vraiment sur l'activité de comparaison elle-même, plutôt que de leur donner tout à voir en même temps, on va les inciter à comparer, vous rappelez ce que je disais ce matin, on va les inviter à comparer en démasquant progressivement. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Voici les cibles, au nombre desquelles on voit un mouton, un chien, une poule, un renard, un moineau et un loup. Et il y a l'ombre d'un de ces animaux qui est caché derrière le carton de couleur, ici. Et vous devez trouver laquelle. Donc vous voyez qu'ici, on va avoir un traitement séquentiel. On ne peut plus travailler sur le traitement perceptif global. On va les obliger à traiter de manière analytique puisqu'ils ne voient jamais la cible en entier. Mais une fois qu'on a vu ça, on est sûr et certain qu'on peut en éliminer au moins deux, l'oiseau et la poule, puisque c'est sûr qu'ils n'ont pas les pattes comme ça. Si on regarde très attentivement, on peut trouver à qui sont ces pattes. Mais enfin, on va oublier le concept hein, si je continue. Maintenant, je montre ça. Donc là, vous êtes d'accord qu'on en a éliminé deux. Et donc ici, l'attention des élèves est tirée sur l'idée que on a un indice qui nous permet d'en éliminer deux, donc une propriété qui en élimine deux, les pattes, mais insuffisante pour nous faire enlever les autres. On enlève quoi ? Pour l'instant, pas. Donc là, on peut déblayer mouton, le chien, on a gardé le renard et le loup, et ici, maintenant qu'on a ça, on enlève le loup, tout à fait. On aurait déjà pu l'enlever là, hein, à part ça, mais... On enlève le loup. Ah là, on en est sûr et certain, on enlève le loup. Et on garde qui ? Donc, en fait, le but, évidemment, ici, c'est pas de leur apprendre à trouver la bonne forme, c'est leur montrer que quand on a des comparaisons, ça ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être attentif à chacune des propriétés Et chacune des propriétés nous permet d'éliminer l'un ou l'autre des éléments. Je reviens sur cette idée de vocabulaire. J'ai dit tout à l'heure combien le vocabulaire était important, etc. Je reviens ici sur le vocabulaire qui est propre à l'activité de comparaison. Pareil, pas pareil, ça n'est intéressant qu'au tout début de l'apprentissage. Mais après, il va falloir, avec les élèves, travailler sur des définitions bien plus précises. Faire décrire de manière précise les différences et les ressemblances. Si on vient ici, on peut dire que le renard et la poule ont des points communs. Et c'est là-dessus qu'on va raisonner. Bien sûr, quand tout de suite, ils vont dire c'est pas pareil. Si, c'est un peu pareil. Et on va abstraire les propriétés qui sont pareilles. L'un et l'autre sont des animaux. L'un et l'autre ont une queue. L'un et l'autre, le renard n'est pas gentil. Dans Roule-Galette, il mange la galette. L'un et l'autre pourraient être gentils. L'un a un bec, l'autre n'en a pas. L'un a quatre pattes, l'autre a deux pattes. Ça va ? Vous comprenez cette idée de vocabulaire qui permet d'étendre les manières de comparer. Donc, faire décrire de manière précise les différences et les ressemblances, vous voyez le lien avec la catégorisation, en étant attentif à travailler le vocabulaire des parties des objets, la description des formes, la description des relations spatiales, ça c'est du Paour, en étant attentif à leur usage parfois abusif. Paour montre qu'à l'école, on confond souvent avant-après avec devant-derrière. Donc là, attention à la description des relations spatiales. En travaillant à leur acquisition procédurale, sans s'attendre à ce que ces apprentissages soient réellement compris. Bien sûr, les faire utiliser, puis les faire redécrire. Donc, je disais tout à l'heure que je viens de vous présenter des exemples de comparaison, comment on va travailler l'activité de comparaison pour elle-même, dans l'idée d'améliorer les compétences dans la conceptualisation de la catégorisation et des relations d'ordre. Mais je disais que notre objectif, c'était évidemment que ces trois compétences générales aient un effet sur des compétences spécifiques, sur des disciplines spécifiques, et je vais en montrer après. Excusez-moi, elle n'est pas là, normalement. Donc, je vous montrerai après. Rideau, c'est un autre type d'activité. Non, elle est là. C'est strictement la même chose que tout à l'heure, ce que je vous montrais. Mais ici, on est sur de l'école. On est plus sur du scolaire avec les chiffres qu'avec les lapins et les canaris. Quel chiffre a-t-on caché sous le carton ? On ne sait pas. Et pourquoi on ne sait pas ? Parce que c'est la même chose pour le 3 et pour le 5. En bas, ils sont écrits exactement de la même manière. Quelle est la seule manière de le savoir ? C'est de dévoiler progressivement. En tout cas, ici, on voit bien en quoi le 3 et le 5 sont pareils. Et ça me paraît intéressant avec les élèves de travailler ça. Quand on l'écrit, la fin s'écrit de la même manière. Maintenant, ça ne permet pas de les distinguer. Donc, pour les distinguer, que doit-on faire ? Soulever progressivement le carton. On peut savoir ? Ah là, ils vous disent oui. Hein. Ouais, je sais, me tresser un 3. J'ai ouvert. Et vous dites, c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, celles qui sont enseignantes en maternelle, vous voyez la portée de cette activité qui paraît rien. C'est qu'on a la flèche, c'est-à-dire maintenant on sait quel est le sens de parcours, c'est-à-dire comment on commence à écrire. Et vous voyez bien qu'on commence pas à écrire le 3 comme on commence le 5. Si on attire l'attention des élèves sur ça, en disant « Ah, c'est quoi ?» On en est sûr, à cause de ça, parce que pas du tout à cause de ça. Alors on sait que si on doit écrire un 3, on va commencer là, tandis que si on commence à écrire un 5, on commence de l'autre côté. Ça va ? C'est crucial, ça. Hop. C'est bon ? Est-ce qu'on a besoin de voir la fin ? Non. Ok, rideau. J'arrête. Ils supportent pas, les enfants, ça. Hein ? Ils supportent pas. Mais normalement, j'arrête. On en est sûr et certain. Il n'y a pas besoin d'ouvrir jusqu'au bout. Bon, je le fais quand même. Même chose. J'ai ça. Vous avez deux modèles. Regardez bien la flèche et le sens de parcours, c'est crucial ça. Hein. C'est-à-dire que ça va permettre aux élèves, si vous le travaillez comme ça, de ne plus jamais écrire B à la place de D, si vous prenez soin d'enseigner ça. Hein. La flèche. Est-ce qu'on sait ce que c'est là ? Oui. On en est sûr et certain, c'est forcément le B, puisque le D ne commence pas par un bâton. Ça va ? Ça n'a d'intérêt que si on a installé la flèche. Hein. Voilà, j'en ai fini avec rideau. Donc vous voyez qu'on passe de choses peu scolaires aux activités scolaires pour montrer l'intérêt de ce dispositif très précis pour encoder les cibles. Dernière chose, planche recto-verso. Donc j'ai dit ce matin combien je croyais important de faire obstacle au traitement perceptif des élèves, les empêcher de voir pour les obliger à traiter. Là, je vais passer un peu de temps sur la description de ce dispositif. Voici le modèle. Derrière, il y a des ombres. Il faut découvrir l'ombre du modèle. Comment allez-vous faire? Et donc là, on est obligé. Il n'y aura pas le modèle de l'autre côté, vous avez compris, hein? Donc on est obligé d'encoder le modèle de manière très précise pour pouvoir mener la comparaison. Vous voyez l'intérêt de ça, c'est-à-dire qu'on leur dit pas seulement « regarde », on leur dit « regarde », « décris », « mémorise » pour pouvoir utiliser le modèle sans avoir besoin d'y retourner. Je dis ça, ça me paraît crucial également à l'école primaire. C'est le nombre de fois où les élèves ont tout sous les yeux et où on pourrait facilement fermer les tableaux, masquer les choses et les obliger à traiter, on les compte vraiment très régulièrement à l'école. Donc on y va, on décrit le rétroviseur, les quatre roues, la forme un peu arrondie, la couleur ne sert à rien, vous êtes d'accord? Puisqu'il s'agit d'ombre. Et puis, on présente les cibles. Et on va décrire et on va reprendre l'activité. Quelle est la plus proche? Quelle est la plus lointaine? Comment on le sait? Évidemment, on peut dégager le cochon, etc., etc. Vous voyez que c'est plus du tout la même activité que celle que je présentais en tête où toutes les choses sont sous les yeux et il suffit de faire de la correspondance. Là, il y a vraiment une réflexion, une mise en mémoire du modèle pour pouvoir opérer la comparaison. Pour l'instant, tout va bien. Voici le modèle. Derrière, il y a des ombres. On va décrire. C'est quoi? Regardez les chaussures. C'est un personnage qui porte quelque chose. Il est de dos. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est, ces chaussures? Des chaussures à crampons. Ou de travail. Donc, soit c'est le foot, soit... Un travailleur dans le bâtiment. Ou un CRS. Est-ce qu'on peut le savoir? Non. On a ces hypothèses. En tout cas, qu'est-ce qu'il a de caractéristique? Ses chaussures à crampons, ce qu'il a sous le bras, et cette drôle de tête, je vois, vous faites ça, c'est-à-dire on voit pas ses mains, et cette drôle de tête avec deux oreilles qui sortent, ou un casque, mais en tout cas, il y a quelque chose qui sort. C'est bon, vous l'avez bien dans la tête? On l'a décrit? Eh bien, si c'est vrai, dessinez-le-moi. Je travaille comme si vous étiez avec mes élèves. Allez. Attendez. J'ai dit dessinez-le-moi. Vous vous dites, ah, qui a fait? Ok, alors je remontre. Il ne s'agit pas de faire un examen, là. Qu'est-ce qui vous manquait pour pouvoir bien le dessiner? Ok, mais en tout cas, là, maintenant, vous êtes d'accord, il a une tête avec des oreilles qui sortent, un bras qui est comme ça, un bras qui est comme ça, un petit short... Et des chaussures à crampons. Allez-y. Attention. Si vous avez de la peine, vous me dites et je remontre. Vous comprenez le principe, je ne veux pas les piéger, mais je veux que le recours au modèle devienne conscient. Tu as besoin du modèle, je te remontre. Tu as besoin du modèle, je te remontre. Mais pas qu'ils fassent comme les chiens à l'arrière des voitures. Que le retour au modèle soit conscient. Qu'ils en aient besoin. C'est bon, vous l'avez ? Vous comprenez ça? C'est génial, hein, ce que je suis en train de vous faire faire. Parce que du coup, si vous l'avez, et si vous faites ça avec les élèves et avec vos enseignants, c'est plus pareil de comparer. Vous avez tout là. Plus besoin d'aller regarder le modèle. On y va, comparer maintenant. Pouah! Mais peanuts! Mais c'est tellement facile! Vous avez tout dans la tête. Ouais, vous aviez raison, football. Vous êtes d'accord? C'est plus la même activité quand on a le modèle dans la tête. C'est plus la même activité. J'espère que je vous convainc là parce que... Allez. Là, il est trop fin, Paour. C'est Paour qui a inventé ça. Derrière, il y a des ombres, il faut découvrir. Ah, oh, trop simple, c'est un écureuil, il a des oreilles et une queue en panache. Ok, c'est bon? Dommage! Et voilà. Il est trop fort là-dessus. Et donc maintenant, ça suffit pas. Et vous voyez comment, maintenant qu'on a les cibles, on est allé trop vite dans la prise d'information, on y retourne. Et là, on va faire prendre conscience aux élèves que parfois, on est un peu rapide. On pense que, eh ben non, allez, on y retourne. Allez, on y va là. Hein. On regarde bien, tarari, attention les trois petits poils sur la truc là. les petites pattes comme ça, et on décrit, et on mime, on va lui mimer le, ce petit écureuil et tout, blabla. On décrit, c'est bon, vous l'avez, allez, dessinez les gars. Allez, paf, on y va, vous l'avez tous, on l'avait pas, on y retourne, nanana, vous l'avez plus. Mais maintenant que vous l'avez bien dans la tête, pooh, trop simple. Trop simple. Mais c'est génial. C'est pas, c'est sûr, c'est que c'est génial. C'est pas vous qui inventez ça, c'est pour ça que je trouve ça génial. On continue. Alors maintenant qu'on a tout bien fait, on compare. Ces exercices, voyez, on fait de la méta sur l'activité de comparaison. Si on devait ranger du plus facile au plus difficile, vous mettez lequel en plus facile? En fait, chacun sa vie. En fait, c'est ça qui est drôle. Ce que ça veut dire, c'est que parfois, moi, élève, eh bien, j'ai des connaissances, par exemple, sur les voitures qui me permettent de trouver cette tâche extrêmement simple. Ou sur les bonhommes. Ce qu'il importe de voir, c'est que parfois, en fonction du matériel, j'ai besoin d'être beaucoup plus attentif que d'autres fois. Vous comprenez? C'est ça qu'on leur fait comprendre. Ben, vous avez compris, je l'ai déjà dit 25 fois. Bon, je continue. Là, on était sur, on installe les procédures, on installe la prise de conscience. J'ai dit, ça suffit pas. Maintenant, il faut envoyer dans l'école. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'on est en train de faire là, ça a une portée énorme à l'école. Là, voilà. Ici, par exemple. Là, on est toujours dans Ordo. Ici, regardez, on va leur faire comparer des bouts d'alignement. Ça, c'est au recto, ça, c'est au verso. Donc, il va falloir encoder ce modèle, un rond, dans l'ordre, hein, avec la flèche, vous la voyez. Un rond, un carré, un triangle. Et on va se demander si, dans chacun de ceux-là, on retrouve ce bout d'alignement. Pour ce faire, on va mémoriser l'ordre. Rond, carré, triangle, rond, carré, triangle, rond, carré, triangle. Et on explore. Rond, triangle, non, carré, non. Rond, carré, triangle, ok. On y retourne. On cherche toujours le point de départ. Rond, carré, triangle, c'est bon. Rond, triangle, carré, c'est pas bon. Pour revenir à votre question, vous voyez que là, on compare par là. Hein. Rond, ah non. Ça marche pas. Rond, non plus. Ça va? Vous comprenez l'idée? Donc, comparaison d'alignement. Vous me dites, on est encore loin de l'école. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je vais zapper. Je me suis trompée. Hop, ici. Là, on se retrouve un peu plus proche de l'école. Rappelez-vous la tâche que je vous ai montrée ce matin. Mais elle a tout changé par rapport à ce matin. Voici le modèle. Recto. Vous l'encodez exactement de la même manière que écureuil, exactement de la même manière que footballeur. Comment vous faites pour l'encoder? Vous le nommez, vous le décrivez. C'est une forme géométrique, c'est un carré. Il a quatre angles, quatre côtés. Vous l'avez dessiné. Ok, on repart. Maintenant, votre activité, ça va être de trouver les mêmes pareils que le modèle. Mais cette fois-ci, vous allez appliquer les deux choses. Ce qu'on a appris dans l'activité de comparaison, ce qu'on a appris dans l'activité suivie d'alignement. Et on y va. Le premier, pareil, pas pareil, pareil. Le deuxième, pareil, pas pareil. Si on a choisi des formes aussi simples pour combiner comparaison et suivi d'ordre, c'est pour que justement le matériel ne fasse pas obstacle à la compréhension, que quand on compare, on associe l'activité de comparaison des propriétés et suivi d'alignement. Si on propose en même temps un matériel trop complexe, on est sûr que les élèves vont perdre une de ces deux procédures. Voilà pourquoi on leur propose un matériel aussi simple. Ça va ? Donc là, on est bien dans l'école et on est bien en train d'enseigner la tâche que je vous ai montrée tout à l'heure où les élèves se faisaient un peu pulvériser. Vous vous rappelez, hein ? Rond carré, là. Triangle carré. Ici, on va abstraire, pardon, la règle, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que pour comparer, il faut mettre en mémoire le modèle et il faut adopter une stratégie systématique de balayage ou d'énumération et les regarder tous en fonction du sens de parcours, sans en sauter, sans en oublier. Ok, première activité. Deuxième activité, correction. Il y a un élève qui a produit ça. Et les élèves vont devoir corriger l'activité de l'autre, mais surtout interpréter. Pourquoi il a produit ça? Évidemment, au début, ils disent parce qu'il est vilain, il est méchant, il n'a pas écouté la maîtresse. Mais après, ils vont être capables de raisonner ça d'une manière beaucoup plus cognitive. Et on leur dit, est-ce que vous pourriez faire une petite lettre à ce garçon ou à cette fille qui a produit ça et lui donner des conseils? Le conseil, c'est bien, regarde bien ton modèle et adopte une stratégie systématique parce que tu en as oublié et tu t'es trompé. Ça va? Et ici, tout juste. Il a fait tout juste. Et là, on va leur demander d'expliquer pourquoi il a fait tout juste. eh ben, il a bien regardé son modèle, il l'a mis dans sa mémoire et il a procédé de gauche à droite. Donc vous voyez comment ce type d'activité permet de continuer à reparler des procédures. Ici, nous avons les cibles, mais nous n'avons pas le modèle. Et donc, on va leur demander de s'interroger sur quel modèle il pourrait y avoir de l'autre côté. Maintenant qu'ils ont compris, tiens, ils vont pouvoir faire des hypothèses sur le modèle. C'est nécessairement une forme géométrique, sinon on ne peut pas comparer. C'est nécessairement soit un carré, soit un triangle. Reste à savoir s'il est penché ou droit. Je ne sais pas, mais c'est un carré. Ça va ? Vous comprenez l'idée ? L'expertise en comparaison nous permet de savoir à quoi peut ressembler le modèle. Et puis après, voilà la tâche. Que s'agit-il de faire ? Mais si on a tout compris à ce que c'est que la comparaison, on doit pouvoir fabriquer des tâches de comparaison. Donc l'évaluation, c'est l'invention. Ah, excusez-moi, je l'ai perdu. Ah, allez, voilà. Bon, il y en avait une entre-temps, excusez-moi. Voici les cibles. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le modèle ? Oui. Il y a une chose dont vous êtes sûr et certain, c'est que c'est un... Voilà. Il y a un doute néanmoins. Ok. Donc pour pouvoir comparer ici, il y a une seule chose à regarder, c'est quoi ? Donc dans la prise d'information, on n'est pas obligé de regarder tout, il y a une seule chose à regarder, c'est sa couleur. La voilà. Il est noir. Mais maintenant, c'est bon, on peut comparer. Vous comprenez l'idée ? Si vous avez bien compris, vous pouvez inventer. Voici Mohamed. C'est recto verso, mais pour le besoin de la conférence, je le présente comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parfait. C'est parfait, c'est un peu collé au matériel. Mais enfin, il a un peu innové, il a mis du rectangle. Il n'y en avait pas jusque-là. Mais en tout cas, il a bien compris que pour comparer, il fallait des mêmes et des pas pareils. Et donc, il a évidemment fait ça. Maintenant, nous avons elle. Ah là. Et là, je vous engage à observer ça. Vous vous rappelez ? Les formes tournées, où on montre aux élèves que, quelle que soit la position dans l'espace, le carré reste un carré. Donc, c'est un carré. Et voilà Bartha qui tourne ses petites bonnes femmes. Ça va ? Ratti, qui a fait râler tous ses collègues parce qu'elle en avait trop fait. Alors voilà. Karim, ou comment je me suis disputée ? Parce que quand Karim a commencé à choisir son modèle, je me suis dit, s'il commence à tourner les lettres en disant, bah oui, c'est pareil, parce que... Quelle que soit la position dans l'espace, une forme reste la même forme. Bon, il se trouve que Karim n'a pas fait ça. Et regardez la qualité de ce travail, où il y a... Parce que c'est compliqué à fabriquer. Il faut des mêmes et des pas mêmes, et des pas pareils. Et il faut modifier. C'est compliqué, hein. Ils sont en grande section, hein, ces élèves. Je vous remonte Christelle, parce que Christelle, elle avait une double stratégie intéressante. Elle a choisi le cœur. Elle a commencé par placer tous ses cœurs en les faisant tourner. Vous les voyez ? Et ensuite, elle a fait des dessins. Autrement dit, elle a vraiment allégé la tâche... Pas avoir à réfléchir, j'en mets des pas pareils. Donc ici, je trouve que, alors même que le matériel prête peu à la créativité, on constate que plus les élèves ont compris ce qu'était que la comparaison, plus ils sont inventifs, créatifs, et moins ils perdent le but de la tâche. Je l'ai fait faire à des élèves qui n'avaient pas bénéficié de l'intervention, et je vois que, eh bien, en fait, ils oublient très vite le but. C'est-à-dire qu'ils commencent à en faire un pareil, un pas pareil, et après ils font que des dessins différents. C'est-à-dire qu'ils lâchent l'idée qu'on est dans une tâche de comparaison, ça devient une tâche de dessin. Ça va ? Alors, on propose ensuite ce type de choses, c'est-à-dire qu'on a ça au recto. Vous pouvez décrire ça ? Un sapin à ma gauche ? Oui ? Une fusée ? Ou bien ? Un sapin, c'est quoi ? Une tige avec des petites feuilles, oui, ça vous décrivait, mais c'est aussi, on pourrait dire, un arbre. Ça va ? Ok. Donc, vous l'avez bien en mémoire ? On y va, hein. Il y a un grand tronc gris, il y a un chapeau pointu, puis on décrit, etc., etc. Voici les cibles. Aucun n'est pareil que le modèle. Et donc, on est forcément ici dans la comparaison relative. Qu'est-ce qu'on va accepter comme étant pareil que le modèle ? Si on a dit un sapin, alors on va accepter celle-ci, on va accepter celle-ci, celle-ci, mais pas celle-là. Et pourquoi pas celle-là ? Si on a dit un arbre, alors on va accepter celle-là, celle-là, celle-là. Ça vous va? Si on a dit un végétal, on prend tout. C'est l'idée de faire de la comparaison relative avec les élèves. Pas seulement de la comparaison en tout ou rien. Du pareil ou du pas pareil. Ici, c'est un peu pareil, mais pas tout à fait. Exactement, et vous allez nous voir venir. C'est-à-dire que pour s'auto-évaluer, on a besoin d'avoir des critères de « ça va quand même pas trop trop mal ». Et c'est pas en tout ou rien. J'écris mon prénom, j'écris pas très très bien. Si je fais une comparaison en tout ou rien, j'efface tout. Si j'apprends à comparer de manière relative, alors je vais effacer seulement une partie de mon travail. Et je vais enlever le K parce qu'il est mal fait, mais je vais garder le M et le A. Je vous remercie pour cette intervention. On est la même manière ici, voici le carré, vous le mettez dans mémoire, voici les cibles. Et donc là, bien sûr, il va falloir s'entendre sur ce qui nous fait accepter que l'un en est et l'autre n'en est pas. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il en devienne un. Et on ne va pas le faire, on va le faire avec sa tête. Si je prends celui-là, il y a peu de choses à faire. Ça va ? Ok, etc., etc. Donc en fait, c'est évidemment ce que vous dites, c'est on compare de manière non pas absolue mais relative et on va réfléchir à la manière de rendre les choses plus proches du modèle attendu. Et on est bien dans une activité de production, vous avez tout à fait raison madame, pas seulement une activité de réception. Même chose pour ça ? Non, pas même chose. Ça, c'était très rigolo. Voici le modèle. Vous l'avez vu ? Là, on demande aux élèves. On dit, ben voilà, on avait glissé une feuille dans une pochette transparente, on l'a perdue. Est-ce que tu peux nous fabriquer la feuille qui consiste à ce que ça, ça soit entouré parce que c'est bien fait et ça, c'est barré parce que c'est mal fait. Donc, on leur fait fabriquer des pas beaux M et des jolis M. Ça va, vous avez compris le principe ? C'est très drôle, les élèves les plus performants, les pas beaux M, c'est des M majuscules et les beaux M, c'est des M attachés. Et puis voilà, on a ça. On va mettre ça dans sa tête, exactement de la même manière, et on a ça. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on corrige, exactement ce que vous disiez, comparaison relative. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on doit changer pour que ça le devienne. Ça va ? Et puis, bien sûr, vous avez vu qu'on est sur du matériel très épuré, et comme le monde lui-même scolaire n'est pas épuré, on les entraîne sur des tâches de transfert, celles-ci, avec toujours cette petite flèche qui va nous donner le sens de parcours. Comme on aura travaillé le dé avec l'histoire des choses masquées, vous voyez comment les élèves sont parfaitement prêts à traiter ce type de tâche. On ne leur donne pas comme ça immédiatement. On le fait stocker dans sa tête. Il est au recto, les cibles sont au verso, etc. Et ça. Et là, on s'attache, je vous rappelle Sissi. Ici, de la même manière, on va leur interdire de voir le modèle. C'est au recto. Il va falloir stocker les successions orthographiques des lettres pour pouvoir comparer. Donc là, on apprend la suite orthographique et on va comparer par après. Si on a besoin du modèle, on peut y retourner. Mais alors, il faut être conscient qu'on y va. Et qu'il faut être conscient qu'on ne l'a pas bien suffisamment bien mis en modèle, en mémoire pour pouvoir procéder à la comparaison. Je reprends ça d'un petit manuel. Enseigner aux élèves les procédures efficaces pour comparer une suite orthographique de lettres. Mémorisation photographique, non. Mémorisation orthographique, oui. On y va. Je mets mardi. On stocke. Combien de lettres ? 5. Comment elles s'appellent ? Quel bruit elles font ? Comment elles s'écrivent ? M-A-R-D-I. On met dans sa tête. On attend. On remet. On y va. Je cache. Tu te souviens pas, je te remontre. Ok, allez, on recommence. Et quant à tout, alors, je te donne les cibles. Vous voyez la différence ? Oui, non ? Alors, j'avance. Et puis après, on va finasser. On a le modèle mardi, on l'a mis dans sa mémoire, on va changer. On va entourer tous les jours de la semaine. On va faire de la catégorisation. Tous les jours de la semaine, tous les mots qui commencent par « ma », tous les mots qui finissent par « di », etc., etc. Et puis l'activité de comparaison, on va l'utiliser en art plastique. Vous avez le modèle, vous avez les cibles. Je ne peux pas m'empêcher de montrer ça, c'est trop beau quand même. Et on est toujours dans la comparaison, et on est toujours dans l'exploration systématique. Et là, on n'est pas dans le gauche-droite, pour reprendre ce que vous disiez, on est beaucoup plus sur le sémantique qui va permettre d'organiser son travail. J'aime beaucoup celle-là. Parce qu'il n'y en a aucun qui est pareil que le modèle. Donc il va falloir chercher un critère. Est-ce que c'est le critère gras? Est-ce que c'est le critère chiffre? Voilà. Là, je finasse. Hein. On est en grande section fin d'année. Modèle au recto, cible au verso. Il faut qu'il corrige le travail d'un autre. Là, il y a du boulot. Hein. Mais enfin, quand ils arrivent en CP, ça va bien. Hein. Bien. J'en suis là de ma présentation. J'ai commencé en disant itinéraire d'une enfant gâtée. Voilà tout le raisonnement que j'ai mené depuis 1988. Et donc, en conclusion, je vais vous montrer les résultats de ma thèse qui permettent de montrer que quand on modifie les conditions éducatives faites aux élèves de milieux populaires, eh bien, on réduit effectivement les inégalités sociales. Voilà comment j'ai travaillé. J'avais trois groupes. Le groupe expérimental qui était le groupe qui a bénéficié de l'intervention en grande section maternelle, intervention cognitive, sur le type d'outil que je vous ai montré, comparaison, mais aussi un outil qui ressemble à rien, qui est un outil qui a été créé par... je vous dirai après. Donc trois groupes comparés, le groupe que j'avais entraîné et deux groupes contrôle, l'un qui était du même groupe scolaire dans l'école classée en REP, et un autre groupe contrôle dans une école très favorisée, je l'écris en gras. Je parle à mes deux camarades aixois. C'est l'école annexe d'application d'Aix-en-Provence. Ça va ? Voilà. Et eux, c'était des élèves des quartiers nord de Marseille. Donc, deux études, la première, et puis une réplication. Donc, voilà. La méthode, ce groupe a bénéficié d'un entraînement que je viens de décrire, plus cette unité qui, je disais, qui ressemble à rien, qui s'appelle régulation de soi, et qui permet d'entraîner les élèves à contrôler leur comportement, d'abord en EP, en motricité, en gymnastique, et ensuite en classe. C'est extrêmement drôle, c'est très peu connu. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus longuement, mais c'est très rigolo comme outil. Ça a été fait par un Américain qui s'appelle Ehud, et c'était sur ça que je me suis basée. Les autres, eh bien, les autres classes mettaient en œuvre les programmes français de l'école maternelle. Une étude longitudinale, à l'entrée en grande section, un pré-test, et jusqu'à la fin du CE2, des tests tous azimuts. Je ne sais pas combien d'épreuves les élèves ont passé, je vous passerai les détails. C'était incroyable. Sachant que les élèves du groupe entraîné et groupe contrôle ont été mélangés en CP. Mais bon, on les a traqués un nombre de fois incalculable de leur grande section jusqu'au CE2. On n'arrêtait pas, en fait. Et on a répliqué, ça je l'ai dit. Si je vous montre la différence dans la population... Vous regardez l'expérience 1, l'expérience 2, le groupe contrôle 2 favorisé, ben, il y a 3% de pères chômeurs invalides disparus, inconnus. Là, il y en a 0 dans l'étude 2. 36 de mères sans profession, 15 ici, et regardez les autres. Ça va ? C'est pas les mêmes populations. Deux épreuves en début de grande section. Une sur les connaissances et compétences scolaires, une sur l'efficience cognitive générale. On pourrait dire QI, je parlerai d'efficience cognitive générale. Celle que j'ai choisie, c'est celle-ci, vous devez la connaître. Donc ici, c'est l'échelle d'admission au cycle élémentaire, c'est une vieille épreuve. Mais en tout cas, ici, on évalue le lexique, le nounours qui est sur la table, l'enfant qui est le plus loin d'eux, ça va ? Lexique, ici, écriture. Vous voyez, quand, à l'époque, l'ordinateur n'existait pas. J'allais dire reverso. Orientation spatiale, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil ? Ça va ? La catégorisation, trouve l'intrus. Sériation, là, algorithme, ça je ne sais pas bien. Manque un bout. Et ça c'est toujours très très important. Il y a la caméra, comment vous diriez ça ? Repérage spatial. Orientation spatiale, reproduction, etc. Et puis l'autre test, c'est le test de Raven. Je l'ai choisi, c'est un test qui évalue le QI, mais je l'ai choisi parce qu'il minore totalement l'importance du langage. C'est-à-dire que tous les enfants non francophones sont capables de réaliser ce test. Alors voici un des items d'entraînement. Vous connaissez peut-être? Donc vous voyez qu'en haut il y a une espèce de puzzle, il manque un morceau et il faut trouver le bout manquant. Et si vous avez bien regardé, c'est le 4. Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est le 2. Alors c'est très drôle, je vais vous raconter deux choses. Ce qui est très drôle, c'est que les élèves les plus performants, quand ils voient ça, ils sont seuls avec l'expérimentateur, etc., ils disent c'est le 3. Or c'est un item d'entraînement. Je dis pas. Tu dis que c'est le 3. Il dit non, c'est pas ça, mais je voulais voir s'il n'y avait pas un piège. Parce que ça saute aux yeux. Hein. Et puis, je voulais vous raconter ça. Je les prévenais, donc j'ai fait passer ce test en grande section CP, CE1, CE2. Et je leur les prévenais qu'à la planche A10, B4 et AB8, je leur demanderais comment ils avaient fait pour trouver. Je peux vous dire que, excepté dans ma classe, les élèves, chaque fois que je leur disais, alors que je les avais prévenus, pourquoi tu réponds ça? Ils disaient, ah, je me suis trompée. Scolairement construit. Hein. Si je te demande pourquoi tu réponds ça, c'est que c'est faux. Alors que je les avais prévenus. Ça m'a vraiment marqué. Alors, je poursuis. Ensuite, on a ça. C'est toujours le même. Hein. Donc là, c'est moins facile. Hein. Ouais, soulevez le sourcil. Vous avez raison. Donc, vous voyez. Bon, ça va. Vous l'avez là. 5. C'est juste. Et ici. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a deux choses à tenir en compte. L'horizontale et la verticale. Donc à l'horizontale, le petit devient gros, mais à l'horizontale, ça reste stable. Donc ici, le petit devient gros, mais lui reste stable. Bon, ça va? C'est dur quand même, hein? Ouais, ça, c'était le dernier des derniers, quasiment. L'horizontale, changement de forme. Verticale, changement de couleur. Donc il faut associer changement de couleur et changement de forme. Donc voilà. Vous êtes d'accord que là, le langage n'intervient absolument pas. C'est pas comme un test comme le WISC ou le Kaufman ou l'anémie. C'est beau? Résultat. Début de grande section. Et rappelez-vous ce que j'ai dit ce matin sur the bell curve. Vous rappelez ces gens qui, dans les années 90, aux États-Unis, disaient pas la peine d'essayer d'éduquer les élèves de milieu populaire. Ils sont déficients. Génétiquement. Vous vous souvenez? Voici ce que ça donne. Le Raven. Donc, test d'intelligence. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, même score. Exactement. Donc non, les élèves de milieu populaire n'ont pas en grande section de maternelle un effet. Il n'y a pas d'effet sur le QI, ça va? Et après il y en aura un, parce que le QI est très marqué culturellement et socialement, parce qu'il va être très dépendant des acquisitions scolaires. Donc oui, il y en aura un si on n'utilise pas ce type d'épreuve. Sur le Kaufman par exemple, il y a beaucoup de connaissances du monde qui vont être impliquées, mais en tout cas pas sur le Raven. Mais regardez maintenant sur les compétences scolaires. Entrée de grande section, eh bien vous voyez que les élèves entraînés et les élèves du groupe contrôle 1, qui font partie des milieux populaires, obtiennent des performances très en deçà des élèves de milieux favorisés. Très en deçà. Donc l'école n'a pas réduit encore les inégalités sociales. Mais, à la fin du CE2, sous vos yeux ébahis, découvrez donc les résultats à l'épreuve de compréhension de lecture imaginée par Aubray et Blanchard, qui demande que les enfants soient extrêmement en contrôle, parce que c'est un test qui est très sensible au fait que les élèves contrôlés ne soient pas impulsifs, mais comprennent. Groupe des élèves entraînés équivalent au groupe des élèves de l'école normale d'Aix-en-Provence. On ne doit pas dire ça normalement. Et très supérieur aux élèves des groupes contrôle 1. Autrement dit, là je vous montre juste le score au Raven. En grande section, jusqu'au CE2. Il y a quelque chose d'intéressant, normalement, et qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ici, ce sont les miens avec un rond. Vous voyez qu'en grande section, j'ai montré qu'ils étaient totalement équivalents. Regardez au CP, les miens. Ils massacrent tout le monde. À quoi vous attribuez ça? Ils sont devenus plus intelligents? Ils ont acquis les compétences qui sont la comparaison, mais le contrôle, l'exploration systématique. Vous voyez pourquoi c'est super important? Regardez ici. Ils ont appris le contrôle. Ils ont appris à prendre l'information sur le modèle. Ok, comment il est fait? Il a des trucs qui vont par là, qui grandissent. Il a des ta-ta-ta-ta-ta. Ils sont super bons en modèle. Donc, ils n'ont même pas besoin d'aller voir les cibles et de les explorer de manière systématique, puisqu'ils savent très bien à quoi ça ressemble là-dessous, puisqu'ils ont appris à raisonner sur les modèles. Donc ici, il dit, ah oui, d'accord, il en faut un qui est un peu gros, avec du orange dedans. Il est où? Blablabla, il est là. Et donc, vous voyez comment ici, l'enseignement a permis ça, mais pas plus. Ils ne sont pas devenus plus intelligents. Et puis ensuite, bah, vous voyez comment les élèves de milieux favorisés, ils vont rattraper les... En CE2, ils continuent à leur avoir mis la raclée. Hein. Mais en CE2, ils rattrapent les autres. Ça va ? Encore une fois, ce n'est pas l'idée que les élèves de milieux populaires sont moins intelligents. C'est bien l'idée qu'ils ont des procédures et des stratégies qui leur permettent de mieux réussir que les autres. Conclusion. Si la réussite scolaire dépend bien des connaissances spécifiques, elle dépend aussi bien de compétences relativement générales, de l'attention, de la qualité du fonctionnement. C'est la même qu'au début, hein, du contrôle. Et voilà. Dernière étape. Si, si. Je vous remercie pour votre attention. Oh, j'avais ça, mais non, ça c'est trop, là. J'arrête. Non, je peux pas ça. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait. Allez, je le fais juste pour la route. Malika pour la route. Malika pour la route. Qu'est-ce que vous en dites de Malika, là ? Ouais, mais c'est mal fait, mais parce que c'est mon PowerPoint qui est mal fait. Mais plissez un peu les yeux et regardez, vous dites quoi ? Plissez les yeux. Non, mais ça ne se voit pas normalement. Comme ils sont exigeants. Mais plissez un peu les yeux, vous dites c'est bien ou c'est... Ne regardez, c'est parce que mon PowerPoint est mal fait. Voilà, c'est parfait, voilà. Ouais, okay. Alors maintenant, quand on regarde, vous avez raison, voilà ce qu'elle a fait. On voit qu'elle n'écrit pas, mais qu'elle dessine. Ok. Bon, il faudrait que je refasse mon transparent, parce que d'habitude, c'était beaucoup plus... Bon. Mais quand même, Malika, c'est mal fait. Mais je vous montre ça. 400 élèves de grande section REP, lyonnais, marseillais, on leur demande la tâche suivante. On est en fin de grande section, j'insiste, et on est en 2006. Non, 2004. Je vais te montrer un modèle d'écriture, c'est les mots lapins. Tu vas bien le regarder parce que tu vas devoir le recopier sans le modèle. Quand tu ne sais plus ce que tu dois écrire, tu me demandes le modèle et moi je te le montre. Comme tout à l'heure, hein. Mais il faut que tu essaies de recopier le plus de choses possible d'un seul coup, de me demander le moins souvent possible d'avoir le modèle. Donc là, vous avez lapin. L'élève regarde. Il dit « Je suis prêt ». On l'enlève. En fait, c'est du papier. Hein. Il fait un truc, il ne sait plus. On remontre et on compte. Ça fait 2. Je ne sais plus. On compte. Ça fait 3. OK, pour vous, on compterait combien ? 1. Lapin, 1. Vous regardez qu'une fois. OK. Ensuite, vous allez copier Canary, vous avez un point. Le chat de Pépé, vous avez un point. Donc, maximum de l'épreuve, c'est 3. Tu vois ? C'est ça pour certains élèves. C'est comme ça, c'est du vrai taille, hein, c'est du vrai mot. C'est lapin, Canary, le chat de Pépé écrit en taille. Je vous fais faire l'expérience. Est-ce que vous pouvez copier le premier mot ? Allez-y. Lapin. Allez-y. Copiez-le. Ah oui, je vous laisse le modèle. Et pourquoi on souffle ? Ça n'a pas de sens, c'est une signe de cire. Ben, c'est un sens, mais vous ne l'avez pas demandé. Je peux vous le donner. Hein. C'est de gauche à droite ou de droite à gauche ? Merci. Ça, c'est la bonne question quand même. Gauche à droite. Comme le français. Allez-y. Bien sûr, vous dessinez exactement pour la bonne raison, vous ne connaissez pas les lettres. Donc, comme les élèves, vous êtes comme un élève parfois de grande section. Je vous vois lever le nez 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, vous ne stockez rien dans la tête. Pourtant, je vous ai appris qu'il fallait stocker avant d'écrire. 14 fois à ma gauche, là-bas. Ah, là, il y a un peu du contrôle. On en embarque un peu plus. Eh oui, voilà, là, on en prend 3-4 en passant, je vous remercie. Marcel Craé, j'ai fait une conf comme ça, je me suis moquée. Mais... 14 fois, il a mis. Bravo, Marcel. Bon, que le premier, vous copiez. Hein. Ah, bah bien sûr. Allez, je continue. Bah voilà. Certains élèves sont comme vous, le voilà. Voilà Mélanie. Fin de grande section. Vous voulez être son instit en CP ? Non, pas tout de suite, hein. On va attendre un peu. Vous voyez ce que je trouve déchirant chez Mélanie ? C'est qu'elle apprend pendant l'épreuve. Regardez le A de lapin, si on peut appeler un A. Regardez les deux A de canari et regardait le chat. Comme si le seul fait qu'on lui enlève le modèle, eh oui, l'oblige. Ah, mais si seulement ça avait été fait un peu avant. Alors Mélanie, 28 fois elle a regardé. Hein. Marouane. Oh mon Dieu, voilà, on la voit, l'incite de maternelle à ma gauche, là. Oh mon Dieu. Ça va ? 15 fois. 15 fois, mais c'est pire, hein. Ok, il en manque. Regardez le chat de Pépé, hein. Ah, j'ai même pas mis Maxime, parce que Maxime, c'était bien, mais j'ai voulu faire un peu pleurer dans les chaumières. Voilà. Allez, j'arrête là, parce que ça n'a aucun rapport. Bon, vous pouvez retourner votre feuille, là, s'il vous plaît. Tout le monde ? Tout le monde ? Tout le monde ? Tout le monde ? Je vous félicite pas. Maintenant, vous réécrivez lapin en taille. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, tournez-moi la feuille, tournez-moi. Regardez-les. Et regardez avant. Combien vous en avez ? 3, voilà, bravo. Combien ? 4. 2. Très bien. Et vous êtes convaincu, qu'il suffit pas de copier pour savoir, là ? Vous êtes convaincu qu'il suffit pas que les élèves voient et revoient et fassent et refassent pour mettre dans leur mémoire ? Pourquoi ? Parce que je vous ai pas dit qu'il fallait le mettre en mémoire. Pourquoi vous l'avez pas mis ? Alors que si vous allez en Thaïlande, vous pouvez pas commander du lapin. Je finis là-dessus. Voilà, vous avez l'exemple même. Qu'il suffit pas que les élèves de maternelle copient et recopient et re-recopient et re-recopient et re-recopient leur petite carte bidon avec leur prénom écrit pour qu'ils le stockent. Il suffit pas qu'ils voient Sissi, qu'ils copient Sissi une fois pour qu'ils le mettent en mémoire. Vous avez la preuve, vous êtes des adultes, je vous ai prévenu toute la matinée, je parle que de ça, et vous le faites pas. Parce que quoi, vous saviez pas que j'allais vous demander de le faire. Mais les élèves, c'est pareil. Et juste un petit détail. Un petit détail, après j'arrête. Si au lieu de faire ça, je vous avais dit, allez maintenant les gars là, on y va. Les filles aussi. On le met en mémoire. On va dire. Et c'est ce qui nous manquait. Un aigle. Avec son petit bec, à 5 yeux, à 5 pattes, et à 2 yeux, regarde un petit éléphant qui prend sa douche, appuyé sur une carne, à côté d'un objet écrit non identifié. J'ai pas réussi là. Ok, on reprend. Un aigle, à 5 pattes, à 2 yeux, regarde un éléphant qui prend sa douche, appuyez sur une canne à côté d'un objet volant non identifié. La seule chose que là, vous allez vraiment vous attacher à apprendre, c'est l'objet écrit non identifié. Pour le reste, vous avez tout. Et on redit. Et toi, tu me redis. C'est du poudou, ça, un zerbato poudou. On va apprendre à écrire sans écrire. Là, je suis en train de vous apprendre à écrire sans écrire. Vous écrivez pas. Vous parlez. Vous exprimez. Vous nommez. Talalit, talalit, talala. Je te fais redire à toi. Un aigle à 5 pattes et à 2 yeux regarde un éléphant qui prend sa douche appuyé sur une canne à côté d'un objet écrit non identifié. À toi, à toi, à toi, à toi. Retournez, allez-y, vous l'avez. Ça prend combien de temps ? Ça prend 10 secondes. Mais il y a un effet pour toute la vie des élèves. Cette fois, je vous remercie vraiment de votre attention.
Je pense immédiatement à la méthode des alphas où les lettres sont personnifiées, où chez nous, on bataille pour que ça ne vienne pas dans les classes, parce qu'on trouve qu'une lettre, c'est une lettre.
Ok, mais il se trouve que là, malheureusement, vous avez raison, sauf que là, malheureusement, je n'ai pas les mots pour le dire. Donc comme je n'ai pas les mots pour le dire, je vais trouver un autre code langagier qui me permet de décrire. Il se trouve qu'en français, une chance, on a les mots pour le dire. Donc on va appeler, et puis là, je vais reprendre ce que je disais, on va enseigner le nom de cette lettre, je reprends mardi, comment elle s'appelle, M, comment elle se dit, comment elle s'écrit, et elle s'écrit de 3 manières ou 12 manières différentes, en script, en attaché, là aussi. Donc, comment elle s'écrit de 3 manières différentes. Et puis, comment elle se trace, et c'est pas la même chose. Et donc, pour tracer un L, que doit faire ma main ? C'est pour ça que je reprends les travaux de Zerbato, là. C'est apprendre à écrire sans écrire, c'est que doit faire ma main pour tracer un L. Je pars de la ligne du 2, je monte vers la droite, je tourne un peu, je redescends tout droit, etc. Donc c'est une chose, hein. Comment elle s'appelle, comment elle s'écrit, comment elle se trace. Voilà. Là il se trouve, tu as raison, mais j'avais pas les mots pour le dire.